Salut les week-ends fatigants et sans intérêt, je suis Karine Galimbaya et je m'attelle à vous offrir le meilleur du week-end, les potins des stars, les nouvelles de Radio Partenaire, les clubs auditeurs de Radio Capi, vous, en direct à travers vos dédicaces et sur Radio Capi. Le 9-16 de Karine Galimbaya, ce samedi et dimanche, sur la Radio de la Côte.
Depuis un certain temps, on observe une forte résistance du paludisme aux différentes molécules qui traitent la malaria. Pourtant, l'OMS, en accord avec certains spécialistes, avait proposé en son temps une combinaison des molécules pour une lutte efficace contre cette maladie afin de l'éradiquer totalement. Mais le problème persiste encore dans certaines zones endémiques telles que la RDC. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre cette maladie? Docteur Didier Dasugwa est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de partenariat au programme national de lutte contre le paludisme. Nous savons que le monde a célébré dernièrement la journée mondiale contre le paludisme. Alors, aujourd'hui, à ce jour, quelle est la situation de la maladie dans notre pays?
D'abord, je ne suis plus chargé du partenariat. Je suis maintenant au sujet d'évaluation, toujours au programme national de lutte contre le paludisme.
Voilà.
En fait, d'une façon générale, d'abord à travers le monde, d'abord le rapport mondial, n'est-ce pas, 2010, fait état d'une diminution du nombre de cas de paludisme d'une façon générale. L'OMS estime que les cas ont diminué de 9 850 000 en 2000 à 7 781 000 en 2009, donc il y a eu une nette réduction des cas de paludisme à travers le monde, et justement grâce aux nouveaux outils recommandés par l'OMS que les pays sont en train d'appliquer d'une façon générale.
Oui, et particulièrement dans notre pays, quelle est la situation? Comment se présente la situation?
Oui, la situation, en fait, pour nous, pour en RDC, nous avons maintenant aussi des données d'impact, parce que, en fait, de toutes les actions que nous menons arrivent finalement à un certain impact. Et donc, par exemple, l'état de fièvre, d'une façon générale, présumé paludisme, ça veut dire le fièvre d'origine paludisme,
oui,
a diminué de 41% en 2001 à 27% actuellement en 2010.
Alors, docteur Didier Dasugwa, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé des outils tout à l'heure pour lutter efficacement contre le paludisme. Quels sont ces outils?
En fait, les outils, pour nous, c'est d'abord des outils que nous utilisons de manière préventive, ça veut dire l'utilisation de la moustiquaire en panier d'insecticide pour tout le monde, pas seulement comme avant, seulement pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, mais cette fois-ci pour la population générale. Ça permet de diminuer la transmission, ça c'est un. Et deux, la prévention chez la femme enceinte. Une femme enceinte qui est enceinte doit recevoir deux doses de cyclophosphamine qui remet en au cours de sa grossesse à la 16e et à la 28e semaine. Et bien sûr, les mesures d'assainissement pour lutter contre les gîtes de larves, ça veut dire les endroits où les moustiques se multiplient. Là, c'est vraiment d'une façon générale la prévention.
Oui.
Mais aussi, quand la personne est malade, elle doit être traitée avec des molécules efficaces. Actuellement, c'est les combinaisons thérapeutiques à base des dérivés d'acétylcholine. Et voilà un peu les outils qu'on a. Mais il faut effectivement, actuellement, l'OMS recommande qu'on pose d'abord le diagnostic biologique avant de soigner les malades.
Oui. Et pourtant, nous savons que dans notre pays, les gens recourent souvent à l'automédication. Les gens se disent bon, on n'a pas assez de moyens pour aller consulter un médecin sur base des symptômes, on va clairement acheter un produit à la pharmacie et puis voilà, et c'est tout. Alors, avec ce genre de pratiques, qu'est-ce que vous comptez faire?
Bon, d'abord, c'est des genres de pratiques, effectivement, qu'il faut dénoncer. C'est vrai que les personnes n'ont pas d'argent, mais c'est des pratiques, en fait, en réalité, assez dangereuses, parce que c'est des pratiques, justement, qui entraînent la résistance du parasite aux médicaments.
Oui.
Un malade qui va acheter le médicament, il ne prend pas la cure complète. qui ne prend pas la dose qu'il faut, et il ne respecte pas les jours de prise, et donc tout ça c'est des pratiques en fait assez dangereuses qui en fait entraînent que le parasite devient résistant aux médicaments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le gouvernement congolais, le programme national de lutte contre le paludisme,
oui,
en partenariat avec ses partenaires multibailleurs, essaye d'amener le médicament qu'il met gratuitement dans les formations sanitaires publiques à la disposition de tout malade, enfant ou grand.
Des médicaments? Oui, docteur Didier, c'est dans quel centre où on trouve des médicaments contre le paludisme et des médicaments gratuits?
En fait, les médicaments sont amenés dans les zones de santé. Les zones de santé, bien sûr, appuyées par ces différents partenaires, par exemple le Fonds mondial, l'USAID ou la Banque mondiale. C'est des médicaments qu'on donne, qu'on met à la disposition de la zone de santé. C'est la zone de santé qui a en charge la distribution dans les formations sanitaires publiques. Et c'est à ce niveau-là que les gens, quand ils vont consulter, bon, je ne dis pas que la consultation est gratuite. La consultation n'est pas gratuite, mais le médicament, lui, est gratuit.
Vous pensez que vous confirmez que c'est déjà effectif dans tous les centres de santé?
Pardon?
Vous confirmez que les malades qui vont à l'hôpital, ces personnes peuvent aller à avoir des médicaments, obtenir des médicaments gratuitement contre le paludisme?
Effectivement, les médicaments sont mis gratuitement contre le paludisme. Ça veut dire la combinaison modakine-artégenate.
Voilà, Joseph nous appelle des Kananga dans la province du Kasaï occidental. Joseph, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est de savoir, parce qu'actuellement, nous vivons dans un environnement qui est d'abord malsain. Je demande à l'auditeur, à l'invité, avec la distribution des moustiquaires imprégnés, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces moustiquaires imprégnés? Et puis aujourd'hui, la distribution se fait d'une manière là, ethnique. Il y a certaines personnalités ou les personnels du travail, les personnels de santé, qui distribuent les moustiquaires à leur propre famille aussi longtemps que la population n'en bénéficie pas.
Merci, c'est docteur Villiers.
Oui, je voudrais d'abord remercier l'auditeur pour sa question et le rassurer en lui disant que la province du Kasaï oriental, tout comme la province du Kasaï occidental, va bénéficier d'une campagne de distribution des masques de moustiquaires imprégnés d'insecticides, ça veut dire à toute la population. Et cette campagne vise à ce qu'on distribue les moustiquaires, au moins 3 moustiquaires par ménage, ça veut dire une ménage en moyenne de 7, ou on peut traduire ça comme une moustiquaire aussi, pour 2 personnes. Donc, l'auditeur doit se rassurer qu'ils vont recevoir le moustiquaire. Les activités pré-campagne sont presque finies.
Oui.
En principe, en fin mai, ce qui est prévu, c'est que fin mai, on commence cette distribution. C'est vrai que ça ne se fera pas au même moment partout parce que les moustiquaires, compte tenu de qui décide aux justices, ne sont pas encore arrivés partout. Mais la campagne aura fait le bien dans le Kasaï oriental et dans le Kasaï occidental qui passe en mai, début mois de juin.
Oui, il déplore le fait que certains les distributeurs favorisent d'abord leurs membres de famille.
En fait, la distribution se passe comment? C'est que on forme les relais communautaires et ils vont passer d'abord faire un dénombrement comme avec les campagnes de polio.
Oui.
On fait d'abord le dénombrement de la population. Et lors du dénombrement, on donne des jetons. Et ces jetons-là va permettre à la population, à chacun ou au chef de ménage, d'aller maintenant retirer ces 3 moustiquaires.
Oui.
Donc, c'est pas qu'il y a un membre de famille ou ceci. Donc, c'est vraiment un dénombrement qui se fait dans la règle de l'art.
Oui.
Et chacun aura sa moustiquaire à partir de son jeton.
Alors, docteur Didier, ces moustiquaires coûtent combien?
Et mon secteur sera distribué gratuitement.
Gratuitement. Jean-Claude nous appelle depuis Siro, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit Cachan.
C'est de votre question.
Oui, je voulais poser la question à l'invité, puisqu'il parle de l'utilisation des moustiquaires imprégnés en insecticides. Alors, nous allons utiliser ces moustiquaires après combien de temps? Au cas où l'insecticide est expiré, qu'est-ce que nous allons faire pour avoir d'autres lots?
Ah voilà, docteur Didier.
Oui, en fait, les moustiquaires qui sont distribués, ce sont des moustiquaires qui sont imprégnés à partir des résines. Ça veut dire que l'insecticide est mis au dedans de la fibre qui pratique la moustiquaire imprégnée. Et c'est des moustiquaires qui sont imprégnés à longue durée, ça veut dire 3 ans. Donc, c'est des moustiquaires qui sont imprégnés pendant 3 ans. Et donc,
oui. Après 3 ans.
Les moustiquaires ne sont pas longs.
Oui, vous dites que la durée d'action du produit est de 3 ans. Alors, après 3 ans, il écarte cette moustiquaire et il va acheter une autre.
Oui, en fait, après 3 ans d'utilisation d'une moustiquaire, c'est vrai qu'elle sera déjà amortie, déchirée, etc. Et donc, il est prévu effectivement des campagnes de renouvellement. L'OMS recommande de renouveler les campagnes de distribution des moustiquaires toutes les 3 ans.
Itoko, voilà. Itoko, monsieur Itoko nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Oui, bonjour à Radio Kassou.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai des petites préoccupations au docteur. La première est de savoir comment se fait la transmission biologique de la malaria. Et la seconde, s'il existe un vaccin pour la malaria.
Docteur Guillet.
Oui, merci à l'auditeur de Mbandaka. Effectivement, bon, la transmission de l'hépatitisme s'est faite à travers le moustique à seule femelle, qui est lui-même infecté. Ça veut dire qu'il a des parasites en lui, parce qu'il avait piqué une personne qui était malade et qui avait le parasite. Il a pris le parasite. Le parasite s'est accouplé chez lui, ça veut dire le gamétocyte mâle et le gamétocyte femelle s'est accouplé, disons entre guillemets pour qu'ils comprennent facilement. Et le parasite s'est accouplé au niveau de l'abdomen de l'anophèle et il y a un cycle biologique qui s'est fait au niveau du moustique et jusqu'à ce que le parasite arrive au niveau des glandes salivaires du moustique. Et quand le moustique pique une personne, il infecte la salive au niveau du torrent sanguin de l'homme. Et c'est à ce moment-là que le parasite fait un autre cycle biologique au niveau de l'humain.
Voilà, c'est de cette façon que se transmet la maladie. La moustique qui transmet la maladie, comment on l'a fait? C'est l'anophèle?
C'est la nocelle femelle. C'est la nocelle femelle. Il n'y a que la nocelle femelle qui transmet la maladie.
Et est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître la nocelle, hein? Des signes évidents ou c'est un peu compliqué?
Non, c'est pas compliqué. Les entomologistes reconnaissent très bien le moustique. Ça veut dire le moustique. Enfin, peut-être que je peux juste donner un signe facile à reconnaître la nocelle femelle. La nocelle, quand il est au repos, au niveau d'un mur. Il n'est pas parallèle au mur. Son corps ne prend pas un angle parallèle au mur. Ça veut dire lui, il est un peu oblique par rapport aux autres moustiques qui, quand ils sont au repos, le corps a un axe parallèle au mur. Donc, ça, c'est assez facile à reconnaître. Donc, quand un moustique est au repos, vous pouvez aller vous rapprocher sans l'effrayer pour qu'il ne vole pas. Et vous l'observez, vous allez voir que son corps fait un angle oblique, un axe oblique à l'axe du mur.
Ben, c'est comme ça qu'on peut reconnaître l'anophèle. Fiston nous appelle des Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Kazé.
Quelle est votre question, Fiston?
Oui, je voudrais profiter de cette occasion poser une préoccupation à l'invité. Est-ce que, pour ce que le gouvernement est en train de faire, le montant que le gouvernement perd chaque fois pour la guerre, est-ce qu'il ne pourrait pas disposer pour éradiquer la maladie telle que les paludismes? Parce que j'ai autrefois lu dans un revue, on parlait d'un $2 millions que l'Europe avait fait pour qu'il puisse éradiquer les paludismes chez lui. Est-ce que le montant du gouvernement congolais marque ça pour enfin mettre fin à cette maladie qui est une pandémie-là, qui tue les gens plus que le sida? Quelle est la préoccupation de l'invité par rapport à ça? Est-ce que par rapport à leur capacité, ils ne peuvent pas poser ces problèmes auprès des gouvernements, au lieu de perdre le montant chaque année, plus de $100 millions à faire des guerres, à intervenir pour éradiquer cette maladie?
Merci, mon Fiston, pour cette question. Avant que le docteur Didier réponde, on va écouter la question d'Irène depuis Matadi. Bonjour. Irène, bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous écoute.
Ma question, c'est...
Oui.
Bon, je voudrais poser la question, pourquoi on n'est jamais guéri de la malaria? Même si on suit les cures et qu'on a pris tous les médicaments jusqu'à la fin, même si on dort, on utilise un moustiquaire infiltré, mais on est toujours malade. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce une maladie incurable ou non? Je vais expliquer ça.
Merci, Irène. Docteur Didier.
Oui, pour ce qui est de la question de fiston.
Oui.
Je ne sais pas si le gouvernement doit arrêter la guerre, bon ça c'est assez politique, c'est pas à mon niveau, mais ce qui est vrai, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est qu'effectivement on peut aller jusqu'à éliminer le paludisme dans un pays. Et c'est le chemin que nous sommes en train de suivre, c'est l'effort, c'est notre but. Le plan stratégique mondial fixe que d'ici 2015, qui est une réduction de 75% des cas de paludisme à travers le monde. Et donc nous sommes sur cet axe-là. Et pour arriver à éradiquer le paludisme, nous devons d'abord porter à échelle les interventions. Ça veut dire les outils, celles que je les ai énumérées là-bas. Il faut, un, que tout le monde ait accès aux médicaments.
Oui.
Il faut que tout le monde ait accès aux outils préventifs. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut prétendre voir maintenant les résultats, ça veut dire la diminution des cas, la diminution des faits. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on peut maintenant penser à aller à l'élimination du paludisme. Donc ça est, mais il y a des pays qui sont déjà arrivés à ce niveau-là.
Lesquels par exemple?
Par exemple, Sao Tomé principe de suivre la phase de pré-élimination.
Oui.
Il y a aussi des pays de Sahel qui n'ont plus le paludisme chez eux, c'est comme l'Algérie.
Oui, voilà.
Plus de paludisme.
Voilà, il y a plus de paludisme dans ces pays-là. Alors, avant de répondre à Irène, nous allons recueillir la question de Manix depuis Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur David.
Oui, Manix.
Oui, j'aimerais savoir ceci.
Oui.
Bon, nous avons des moustiquaires qui nous protègent contre la malaria.
Oui.
Alors, nous avons des fruits que nous mettons souvent des qualités. Alors, là-bas, nous trouvons qu'il y a trop de moustiques qui nous permettent toujours d'en avoir la malaria. Alors, nous avons des petits enfants qui portent des culottes et à ce moment-là, si, par exemple, le soir, nous sommes protégés dans les moustiquaires. Le matin, les petits enfants sont en culotte et avec le fruit qui est de qualité, il y a trop de moustiques.
Oui.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour se protéger en dehors de la famille?
Merci Manix, docteur Didier, c'est un peu la même question qu'Irène depuis Matadi a posé tout à l'heure. Elle dit que pourquoi on est jamais guéri de la malaria, est-ce que c'est une maladie incurable? Et Manix dit on dort sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides, mais alors pendant que les enfants jouent et les enfants sont en culotte, on regarde la télé, les moustiques peuvent vous piquer à ce moment-là.
Oui, je voudrais d'abord rassurer Irène que la malaria n'est pas une maladie incurable. C'est une maladie aiguë. Et quand vous faites un épisode de paludisme, et que si cet épisode est bien soigné, ça veut dire que la personne reçoit le bon médicament, ça veut dire un médicament qui n'est pas piraté, qui est bien conservé, il prend normalement sa cure. Il respecte bien entendu sa cure et la personne est guérie complètement. Ça ne veut pas dire que quand une personne est guérie d'un épisode, il ne pourra pas faire un autre épisode. Ça veut dire qu'on peut guérir d'un épisode aujourd'hui et 2 semaines, 3 semaines après, parce qu'on n'est pas protégé, parce qu'on est exposé, parce qu'on a été piqué par une amoncelle femelle infectée, on peut faire un autre épisode de malaria. C'est pour ça que nous recommandons que, par exemple, que les personnes dorment sous moustiquaire chaque nuit. Et ça me permet de rebondir un peu sur la question de Manix.
Oui.
Je voulais dire que l'anophèle, le comportement du moustique, c'est de l'anophèle qui prend la malaria et que c'est pas le moustique la journée ou le soir, c'est pas toujours l'anophèle qui est là. Ça veut dire, il y a des entomologistes qui ont étudié le comportement du moustique.
J'ai trouvé que c'est le manocène qui est responsable de la transmission du paludisme est plus actif à partir de 22h-23h, jusqu'au petit matin, autour de 4h-5h.
Oui.
Donc, c'est vrai que qui jouait le soir, on se fait piquer. Généralement, c'est peut-être le Kinect, parce que le Kinect aussi pique. Le Kinect, il pique, mais il ne transmet pas
la malaria. Oui.
Et donc, on suppose qu'à partir de 22h, surtout les jeunes enfants qui n'ont pas assez d'immunité, ils dorment.
Oui.
Donc, à ce moment-là, il faut les mettre sur la moustiquaire jusqu'au petit matin. Quand ils se réveillent à 7h, bon, la nouvelle femelle est déjà allée se cacher, il est au repos. À ce moment-là, ça évite qu'il soit piqué. Mais n'empêche que, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux moustiques qui peuvent piquer les personnes parce qu'ils sont sortis un peu avant,
oui.
Avant 22h. Mais la transmission aussi est prioritaire du nombre de piqûres infectantes infectantes que la personne reçoit.
Oui.
Oui, ça veut dire que plus vous êtes exposé à plusieurs anophèles, ça veut dire au-delà de 23 heures, si vous ne dormez pas sur moustiquaire, plus vous avez la chance de faire la malaria. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi sur les Kinshasa et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11 à 12h et mercredi de 10h sur les Kinshasa.
Comment lutter efficacement contre la malaria? On en parle aujourd'hui avec Dr Didier Dassigua, chargé d'évaluation au programme national de lutte contre le paludisme. Serge nous appelle de Kananga et Amici de Kindu. Serge, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui.
Votre question, Serge.
Ok, j'avais une suggestion à faire concernant les deux questions qui sont posées par Malik et Irène. Je voulais dire au docteur, avec tous les organismes possibles de lutte contre le paludisme, ils peuvent nous fabriquer une molécule que nous pouvons appliquer sur notre corps. Peut-être après s'être lavé, on se frotte sur le corps. Alors, il y a possibilité que les anophèles, quand ils viennent pour nous piquer, afin de nous inoculer les plasmodium, ils seront détruits ou tués. Alors, c'est vraiment une prévention totale contre les anophèles qui nous inoculent les plasmodium. Ça, c'est une suggestion.
Oui.
Et puis, j'avais une question à poser concernant l'association Atezinat et Amodapine pour le traitement du paludisme.
Oui.
Je voulais poser la question de savoir, est-ce que cette association est-elle tellement efficace contre le plasmodium qui nous transmet, qui nous cause le malaria? Est-ce que vraiment c'est efficace? Si c'est efficace, que le docteur puisse nous expliquer comment se fait vraiment cette procédure de traitement du paludisme.
Merci Serge de Kananga. Oui, merci Serge de Kananga. Ami, si en ligne depuis Kindu, au Maniema, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Ami. Si.
Ok, j'ai trois petites questions comme ça que j'aimerais poser à notre invité, le docteur.
Allez-y rapidement.
La première question est celle-ci, monsieur le journaliste.
Oui.
Vous savez, à Kindu, nous avons les services de l'environnement et les services de l'hygiène. Et si j'évoque ces deux services-là, c'est parce que ce sont ces deux services-là qui s'occupent de la salubrité. Vous allez voir aussi, je suis chez moi, il y a des caniveaux qui ne sont pas entretenus. Il y a des flaques d'eau qui ne sont pas entretenues. Alors, quelle est la politique que le docteur peut nous dire qu'il a mis avec les services qu'on s'est précité pour mettre fin à tous ces désordres-là et à cette situation-là environnementale qui n'est pas entretenue.
Oui,
deuxième question.
Oui.
Avec la politique là, de distribution des moustiquaires, qu'est-ce qu'on a constaté ici à Kindu? Parce qu'on avait procédé à la distribution des moustiquaires ici à Kindu, le premier.
Oui.
On a remarqué une chose. Moi, j'ai une famille de 40 personnes. On avait donné 4 moustiquaires. On a plus de 10 lits. Alors, avec 4 moustiquaires, qu'est-ce qu'on va faire avec ce du-lit, ce du-lit-là? Vous allez voir que les autres sont sacrifiés. Alors, deuxième question, troisième question, s'il vous plaît. J'aimerais demander à notre invité qu'il nous explique. Il vient de dire ici qu'on a mis des produits contre la malaria, contre le paludisme dans tous les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on a constaté ici à Tindre? Quand on procède à la distribution de produits pharmaceutiques dans les hôpitaux,
qu'est-ce qui se passe?
En un clair d'œil, tous les produits se volatilisent. Alors, qu'est-ce que vous maintenant? Quelle est la politique que le docteur fait nous dire et qu'il a mis pour que prochainement les produits ne puissent pas se volatiliser comme ça une fois distribués dans des centres de santé ou dans des hôpitaux?
Merci.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Merci, Amici, pour toutes ces préoccupations. Docteur Didier va rapidement répondre à ses auditeurs.
Oui, je commence d'abord par la question de Serge.
Oui.
Oui, effectivement, il existe effectivement des produits des répulsifs, qu'on appelle des répulsifs, des produits qu'on peut sentir le corps pour repousser le moustique s'il veut se poser au niveau de la peau de quelqu'un, parce qu'il doit se pour piquer, le moustique doit se déposer sur la peau avant de piquer. Ces produits existent. Mais malheureusement, c'est des produits chez nous où il fait très chaud. Quand la personne transpire, la transpiration, la sueur, enlève le produit. Ça veut dire que c'est un produit qui ne reste pas longtemps. Et en même temps, si vous abusez le corps de ce produit-là et que vous dormez, vous êtes sur votre lit, vous êtes en train de vous tourner et de vous retourner, et le produit reste plutôt sur les draps et qui ne résiste longtemps au niveau du corps. Donc les produits existent, mais ils se posent un problème de leur efficacité. D'abord, qu'ils restent au niveau du corps, de la peau, assez longtemps ou toute la nuit, parce que comme j'ai dit, c'est généralement la nuit que la nocelle...
Alors, docteur Didier, Serge pose une autre question, c'est de savoir si la combinaison à artésinat-amodiaquine est efficace.
Oui, effectivement, la combinaison amodiaquine-artésinat est efficace. Parce que les études que nous avions menées ici au niveau du Congo, en 2000, déjà depuis 2005, ont montré une efficacité autour de 94%. Donc ça veut dire que c'est un médicament qui est assez efficace, c'est une combinaison thérapeutique qui est vraiment efficace. Donc il n'y a pas de souci. Et il agit effectivement sur le plasmodium falciparum en priorité, parce que le plasmodium falciparum, c'est le parasite le plus dangereux, celui qui nous donne le paludisme grave.
Oui.
Et donc, si ce produit déjà agit sur le plasmodium falciparum, c'est pour nous, c'est le produit qu'il faut.
Voilà, c'est le produit qu'il faut. Amis, si de Kindou parle de la politique d'assainissement, qu'est-ce qui est prévu pour assainir l'environnement afin d'éviter cette maladie, la transmission de la malaria?
Effectivement, il a raison de dire qu'il y a des services d'environnement, il y a des services d'hygiène qui sont là et qui, en principe, ont en charge la salubrité au niveau de la province, donc de la province du Maniema d'une façon générale et de Kindou en particulier.
Oui.
Et nous, en tant que programme national, nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé. Nous, effectivement, nous y allons plutôt ce qu'on appelle l'assainissement sous forme de communication. Donc, nous expliquons à la population ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que la salubrité, c'est un problème de tout le monde. Et qu'il faut effectivement que nous expliquions que, voilà, il ne faut pas garder l'eau qui stagne autour de vos maisons, il ne faut pas laisser les herbes pousser autour de vos maisons. La population doit faire quelque chose, parce que c'est là où il y a le
mouvement. Oui. Docteur Didier, voilà, la population doit faire quelque chose. Alors, il ne reste plus, on n'a plus assez de temps. Dans 10 secondes, vous allez répondre aux questions restantes. Amis, il a parlé des 4 moustiquaires pour une famille de 40 personnes. Les autres sont sacrifiés. Et des produits qui sont distribués dans les centres de santé qui se volatilisent juste après. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet dans 10 secondes?
Oui, très rapidement, effectivement, quand nous faisons les campagnes de distribution, effectivement, nous tenons en principe compte de la
taille,
en fait, du nombre de personnes qui sont dans un ménage.
Oui.
Et en principe, l'une ne devrait pas recevoir 4 moustiquaires pour 40 personnes. C'est comme j'ai dit, en fait, on distribue une moustiquaire pour 2 personnes. Donc, comme si la 40 personnes devraient, en principe, recevoir au minimum dans mon secteur. Bon. Et on avait une ligne verte pour expliquer pour des réclamations. Mais tout ce que je peux lui dire, c'est qu'il peut voir avec le service provincial. Nous avons un service provincial au niveau de Kindu. Il peut poser le problème et on peut trouver une solution locale au niveau de Kindu. Et pour ce qui est de produits qui se volatilisent, ça rentre dans la gestion normale d'un hôpital ou d'une zone de santé.
Oui.
Et donc, s'il y a des choses comme ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et le médecin chef de zone qui a en charge tous les centres de santé, tous les hôpitaux au niveau de la zone de santé, devra prendre les mesures qu'il faut. Je voulais dire à monsieur.
Bien, merci docteur Didier Dassigua, chargé d'évaluation au programme national de lutte contre le paludisme. Merci et à la prochaine.
Ok, merci à Radio Capé.
Thank you.